Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI, grand reportage,
Marie-Pierre Olfan.
Bonjour, le grand reportage nous amène aujourd'hui aux Antilles, des îles frappées depuis plusieurs années par des arrivées massives d'algues sur leur côte atlantique. Ces algues, les sargasses, dérivent sur l'océan et finissent par s'échouer sur les plages. Les conséquences sont très graves pour la santé des populations d'abord, mais également pour le tourisme, un des revenus principaux de ces îles paradisiaques. La sargasse en Martinique, une algue qui pourrit la vie, c'est un grand reportage d'Agnès Rougier.
Là, on est sur un petit chemin. Où est-ce qu'on arrive?
Alors, on arrive à Frégate Est 2. C'est un endroit qui a été assez impacté. C'est là, ici, que nous avons relevé le taux de ppm le plus élevé. Alors, c'est passé de 5 jusqu'à 15-20 ppm. Il aurait fallu déloger les gens, faire jouer le principe de précaution. Et ça n'a pas été mis en œuvre. Certains habitants ont porté plainte, pas tous. Et tous ces gens-là sont impactés par ça.
Donc on est sur un petit chemin avec de part et d'autre des villas, de jolis petits jardins, des jolies villas. Et en fait, ça sent très mauvais.
Ah oui, ça sent très mauvais. Et les gens qui sont là, ils ont dû déménager parce qu'ils ne peuvent plus rester.
Nous sommes en Martinique, sur la côte atlantique, avec Charles Virasamy et Aurore Pison de l'APNEE, l'Association pour la protection de la nature et de l'environnement. À l'est de l'île, les algues sargasses s'échouent et s'entassent depuis le mois de mars dernier. Ces échouages massifs ont débuté en 2011 et ont été particulièrement intenses en 2015 et en 2018. Depuis, les algues pourrissent et émettent en particulier un gaz toxique qui sent l'œuf pourri, l'hydrogène sulfuré ou H2S. La quantité de gaz dans l'air se mesure en ppm ou parties par million. Et plus le taux de ppm est élevé, plus la toxicité est grande. En octobre, un premier séminaire sur les sargasses a eu lieu à Fort-de-France, un séminaire qui rassemblait scientifiques, politiques et membres de la société civile. Mais qui sont donc ces sargasses malodorantes? Frédéric Ménard, chercheur à l'Institut de la Recherche pour le Développement.
Les sargasses, ce sont donc des espèces d'algues brunes qui sont très communes dans la mer des sargasses. Elles ont été découvertes notamment par Christophe Colomb en 1492. Ces algues, elles sont donc parfaitement naturelles, en tout cas dans la mer des Sargasses, et depuis 2011, elles s'échouent sur les côtes des îles caribéennes. C'est un phénomène qui n'était pas observé jusqu'à présent. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est, on est quand même éloigné de la mer des Sargasses, est-ce qu'on a affaire à une nouvelle mer des Sargasses?
On retrouve les mêmes algues.
Alors, ce sont les mêmes algues parce que dans la famille et dans le grand groupe des algues sargasses, la plupart des algues sont des algues benthiques, c'est-à-dire qu'elles sont fixées sur le fond, sur un substrat, et on ne connaît que deux espèces dites pélagiques, c'est-à-dire des espèces qui réalisent l'intégralité de leur cycle biologique en pleine eau. Et donc ce sont ces algues pélagiques, sargasses pélagiques, qui sont présentes dans la mer des Sargasses et qui maintenant sont présentes dans cette nouvelle mer des Sargasses qui est beaucoup plus sud et qui se retrouve à l'échelle de l'Atlantique équatorial complet, puisque les échouages, on les observe aussi sur les côtes guinéennes en Afrique.
Les algues sargasses prospèrent dans l'océan Atlantique sous forme de longs filaments qui, quand ils s'agrègent entre eux, forment des sortes de radeaux, des radeaux pouvant mesurer plusieurs centaines de mètres de diamètre et jusqu'à 7 mètres d'épaisseur. Ces radeaux sont assez solides pour qu'on puisse sans aucun risque marcher dessus. Pour Pascal Safache, de l'Université des Antilles, la croissance de cette nouvelle mer des sargasses au nord du Brésil pourrait répondre à une modification de l'environnement.
Première origine, ce serait un développement algal massif au large de l'Amazone, donc en face du Brésil, pour faire simple. Pourquoi? Parce que le Brésil, qui a décidé de devenir le premier producteur mondial d'éthanol, est en train de déboiser massivement la forêt amazonienne, donc le côté brésilien, pour y développer donc de la culture de la canne. Mais pas seulement, on y développe aussi du soja à grande échelle. Tout ceci nécessite des intrants chimiques en grande quantité. Donc ce sont des centaines, des milliers de tonnes de produits phytosanitaires qui sont épandus mensuellement sur ces vastes plantations. On est en milieu équatorial, donc dans des zones extrêmement humides. Donc tous ces produits finissent de toute façon dans les rivières et dans les fleuves qui eux-mêmes se jettent en mer et qui alimentent le milieu marin. L'algue sargasse étant une algue qui se nourrit de nutriments, qui se nourrit de sels minéraux. On retrouve donc dans ces eaux de rivière des teneurs en sels minéraux extrêmement importantes. Et donc c'est ce qui explique qu'il y ait là une sorte d'hypercroissance algale qui va donc stationner auprès du Brésil. Mais il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il y ait une sorte de dérèglement courantologique lié au changement climatique, puisque les basses couches de l'atmosphère étant de plus en plus chaudes, les courants marins ont tendance à ne plus respecter les, on va dire, les axes, les champs qui étaient les leurs. Et donc ces courants dérivent un peu plus vers l'ouest, donc vers par exemple le Brésil, et donc viennent grignoter les bandes sargasses qui jusqu'alors ne nous parvenaient pas et qui désormais viennent s'échouer sur nos côtes.
Après l'échouage, les algues doivent être ôtées dans les deux jours sous peine de commencer à se décomposer. C'est alors qu'elles émettent de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfuré. Si l'H2S n'est pas dangereux à faible dose, il peut donner notamment des maux de tête et des vomissements à des concentrations plus élevées. Et au-delà de 500 à 700 parties par million, il provoque l'évanouissement et la mort.
Là, nous nous dirigeons maintenant vers le marin. Le marin, puis après, Saint-Luc et le diamant. Donc on a pour... Nous avons pour à peu près une trois quarts d'heure de route.
Nous partons maintenant avec Charles Virasamy et Aurore Pison de l'association Apnée vers un haut lieu du tourisme martiniquais, le Diamant. Un site qui doit son nom au rocher en forme de pierre précieuse juste en face de la plage.
Et là-bas, c'est... quand il n'y a pas de sargasse, c'est paradisiaque.
Oui.
Et nous arrivons chez Ernest, qui tient un petit piano-bar et restaurant en bord de plage.
On n'a pas de chance, parce que vendredi, on a eu une houle. Parce que la plage n'est pas comme ça, madame. La plage n'est pas comme ça. La plage, c'est du sable. Et avec la houle, il y a eu des sargasses qui sont revenues et il y a eu des cailloux, là. Vous avez vu, les cailloux. C'est pas une plage à cailloux. La plage n'est pas comme ça. Non, là, vous nous voyez sur notre plus mauvais profil. Les mots me manquent pour vous expliquer mon désarroi. C'est dur, parce que c'est quand même depuis le 8 mars. Des algues tous les jours. Il y a une entreprise qui a travaillé pendant 4 mois tous les jours. Pendant 4 mois tous les jours, elle venait, elle enlevait les algues. Elle était à peine arrivée au bout du diamant, que ça commençait déjà à revenir, à refaire le... Et tous les jours, c'était comme ça. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pour la saison qui va venir, là, parce que on ne récupère jamais le manque à gagner, de toute façon. Donc, j'espère que la saison qui viendra va nous rebooster pour nous redonner espoir. C'est comme ça.
Cette année, Ernest a résisté. Il a réussi à ne licencier personne, mais rien ne dit qu'il pourra continuer son activité si les choses ne s'arrangent pas. En longeant avec Aurore Pison la côte découpée qui va nous amener chez Thierry Lebrun, un médecin qui habite en bord de mer, on voit bien que toutes les activités liées au tourisme maritime ont dû fermer boutique. Et pour cause, en plus des tas de sargasses en train de pourrir en bord de mer, il y a l'odeur insupportable.
Ça fait une heure que je respire pas normalement. Oh la vache. Non mais c'est pire que ce qu'on avait à côté là.
Donc je suis Lebrun Thierry, j'ai 60 ans, un peu plus. Je suis médecin anesthésiste au Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique. Je suis responsable du service d'anesthésie et je suis citoyen martiniquais et j'habite au Robert, commune sinistrée par la sargasse, et je suis très impacté car je suis en premier niveau par rapport à la mer.
Effectivement, hein, les odeurs, l'oxydation, quelles sont les autres conséquences de ces sargasses qui pourrissent au bout de votre jardin?
Il y en a un que vous voyez en direct, quand je suis arrivé, je n'avais pas le nez bouché, je n'avais pas le nez qui coulait. Et là, j'ai une narine complètement bouchée déjà, j'ai les yeux qui... Voilà, c'est ce que je vis tous les jours depuis janvier.
C'est assez toxique, hein. Enfin, j'ai vu la couleur de votre douche, par exemple. Ça a l'air toxique, donc c'est peut-être un peu dangereux, non?
On ne sait pas ce que ça donne lors d'une exposition chronique à un certain taux supérieur à la normale. Ça, on ne sait pas. Il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. Et ça fait 8 mois qu'on est exposé. Et en juin, j'ai pété un câble. Parce que je suis rentré, j'avais mon jasmin qui était grillé par l'acidité de l'air. Et puis j'en avais marre de sentir cette odeur, de voir cette eau marron devant chez moi, alors qu'avant c'était complètement bleu turquoise, enfin l'eau des Caraïbes. Et j'ai écrit une lettre après avoir bu deux ponches au préfet de la Martinique, l'invitant à venir manger un poisson avec moi, n'emmenant pas plus de 6 personnes, pour qu'ils vivent quelques heures ce que nous vivions depuis des mois et des mois. Bon, c'était une plaisanterie, un clin d'œil pour dire qu'il fallait que ça suffisait, qu'on en avait marre et qu'il fallait appliquer le principe de précaution. Bon, moi, je suis plutôt en fin de vie, mais on a des enfants, des petits-enfants, il faut les protéger. Donc, je me suis lancé dans la bataille, et puis ben, le lendemain, j'ai été très sollicité. Puis depuis, ben, je suis fiché S comme sargasse.
Ah, c'est incroyable! Je suis là depuis un quart d'heure, quoi.
Ouais, j'étais en train de voir ça.
Et voilà, les chaînes en argent sont complètement oxydées.
Vous imaginez ce que ça fait dans les poumons?
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je m'appelle Agnès Rougier de Radio France Internationale.
Oui.
Et je peux vous demander votre nom ?
Jean-Luc Montinem.
Et vous êtes pêcheur ici à Trinité ?
Oui.
Alors voilà, je suis venu parce que je fais un reportage sur les sargasses et ce que ça a donné justement pour les gens qui vivent ici et qui vivent de la pêche. Alors par exemple pour vous, cette année, c'est une année... Très médiocre.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça change pour vous et comment ça agit sur votre activité?
Il y a deux grandes conséquences sur les activités nautiques déjà, parce que ça n'arrête pas d'entrer et c'est pas encore prêt de se terminer ce truc.
Qu'est-ce que ça change pour la pêche?
Ça nous gêne déjà au point de vue à la traîne. On ne peut vraiment pas traîner comme auparavant. Même pour la dorade, même pour le thon et les poissons pélagiques, c'est pas pareil. C'est vraiment très difficile parce qu'avant qu'on lâche la ligne, ça prend la sargasse et on ne peut vraiment pas traîner à ce moment-là. Et en plus, à la navigation pour les moteurs, c'est très 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 délicat.
Bon, j'ai vu que ça nettoyait les bateaux aussi. Hein.
Oui.
Surtout
les coques. Ça décape, oui.
Ça décape les coques.
Donc si ça décape les coques, pour l'intérieur du corps, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça fait.
Merci. Oui, non content d'intoxiquer ce qu'il respire, le sulfure d'hydrogène oxyde les métaux et par voie de conséquence neutralise tout ce qui est électronique. Au bout d'un moment, tous ceux qui vivent au bord de la mer voient donc leurs ordinateurs, machines à laver, frigos et autres matériels tomber en panne. Il faut donc ramasser les algues avant qu'elles ne pourrissent et comme la côte martiniquaise est très découpée, il est très difficile d'y envoyer une pelle mécanique. Une grande partie des algues doit donc être ôtée à la main. Bonjour.
Prenez l'entrée.
Parfait. Bonjour madame. Samantha. Agnès Rougier, RFI. Enchantée. Je vois que là tout le monde travaille. On est où ici?
On est à Cosby, plage, au niveau de la Trinité. Il y a la plage et là on est plus en train d'enlever au niveau du port de pêche parce que ça reste vraiment stagné dans l'eau et c'est ce qui sent. On est une ACI au niveau de ramassage de la sargasse mandatée par la sous-préfecture. On a aussi un marché de façon à ce qu'on puisse enlever la sargasse régulièrement sur les plages.
En fait donc c'est une entreprise d'insertion?
Oui, une entreprise d'insertion. Hein. En ce moment nous sommes 17.
Ils pourront pas prendre la belle, hein? Non, il ne faut pas faire monter.
Et puis surtout qu'il ne pourra pas prendre la belle.
En fait, ça ne s'est pas arrêté là depuis cette année.
Non, ça ne s'est pas arrêté du tout. On arrive toute l'année. C'est la première fois qu'on arrive toute l'année. Et c'est vrai que le problème où on rencontre en ce moment, c'est la zone où on doit les stocker. Ça commence à être saturé. Et en fait, il faut qu'on trouve d'autres terrains de façon à ce que la DIAL acte pour le terrain ou pas. Parce que il ne faut pas qu'il y ait aussi de problèmes après, parce qu'il y a des habitants des fois qui habitent près du terrain qui ne sont pas trop contents quand on vient stocker la saga, parce que pour eux, c'est enlever un problème pour mettre un autre dans un autre endroit. Et c'est vrai que ça commence à être un peu délicat. Mais c'est les zones de stockage qui vont manquer, je pense, à certains moments. Et encore, on se dit des fois que s'il y a une grosse arrivée, comment on va faire? Où on va les mettre? On se pose toujours cette question. Là, ça arrive par période. Mais le jour où on aura vraiment, il faut qu'on réfléchisse vraiment où on va mettre la sargas. Il faut qu'on réfléchisse pour avoir des lieux d'exutoire, pour vraiment spécialement pour mettre la sargas, de façon à ce que... Parce que le site du Robert, là, il est saturé. En ce moment, on ne peut pas mettre dans les bennes pour évacuer au niveau du Robert, parce que vraiment, ils sont saturés au niveau de leur site pour l'évacuation de la sargas.
Et on est sur une île, donc l'espace n'est pas extensible.
Voilà, l'espace n'est pas extensible.
Alors là, la benne est déjà remplie, donc vous allez faire de l'épandage.
De l'épandage en sous-bois. L'épandage, ça sert à faire des couches. On ne fait pas de trop gros tas, de façon à ce que ça puisse sentir. Après, on fait de fines couches, on étale. Et après, comme ça sera en décomposition, les algues, les sargasses vont devenir sèches. Il y aura pas, ça ne sera pas nocif pour la population.
Des petites crevettes, vous avez vu?
Oui. Non, il y a des petites crevettes des fois au-dessous.
En plus de produire un gaz toxique, les sargasses sont remplies de sel marin, mais aussi de métaux lourds comme l'arsenic. Et l'on s'est rendu compte que les sargasses qui restent en bord de plage absorbent le chlordécone, un pesticide qui pose déjà un gros problème aux Antilles. Il est donc complètement déconseillé d'utiliser les sargasses en agriculture. Les Antillais sont donc face à un problème majeur et les ministres et le chef de l'État qui sont venus pour constater les dégâts ont promis une aide financière, notamment pour le ramassage, mais ça ne suffira pas. Alors, s'agit-il d'un nouveau scandale sanitaire, docteur Thierry Lebrun?
Scandale sanitaire, on ne peut pas dire ça. On ne sait pas ce que ça donne aux exposition chronique. On a lancé, puisque cette année c'est chaud, au niveau de l'hôpital, j'appartiens au groupe scientifique qui a essayé de lancer 4 études. On a budgétisé ça à 200 000 euros, on a du mal à avoir cet argent, apparemment ça devrait se débloquer parce qu'il faut déléguer quelqu'un du secrétariat. Donc, ce sont des études épidémiologiques, des études cliniques et aussi une étude recherche avec expérimentation sur l'animal et tout. Mais là il faut avoir un laboratoire de recherche, les animaux ça coûte cher, donc il nous faut une subvention pour ça. Il faut savoir que toutes ces études qui sont en cours, notamment au niveau scientifique, mais au niveau écologique, agriculture, etc., même au niveau spatial, c'est des trucs qui vont durer des années. Et en attendant, il faut qu'on réagisse pour les gens exposés. Mais on a espoir, moi je pense qu'ils vont mettre les barrages, je pense qu'ils vont bouger, j'espère.
On l'a vu lors du séminaire, le problème des sargasses concerne un territoire bien plus vaste que les Antilles françaises et les solutions viendront probablement d'une coopération interrégionale, politique et scientifique qui est en train de se construire. Mais tout reste encore à faire. La sargasse en Martinique, une algue qui pourrit la vie. Un grand reportage d'Agnès Rougier, réalisé par Eva Piedel.
Thank you.